Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 17 sur 19. Alors, nous avons déjà lu le passage de l'Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 12. Nous avons lu Jean aussi, le chapitre 1 et verset 12. Nous avons mentionné aussi Luc 10, 19. Et j'aimerais que nous allions maintenant rapidement à l'Évangile de Luc et au chapitre 4. Et cela va nous conduire dans la prochaine section de notre séminaire. Alors, il est parfois difficile d'adapter ce que j'ai à communiquer dans le format d'une conférence comme celle-ci. En fait, je préférerais de beaucoup qu'on soit tous assis autour de la table et que nous puissions discuter de tout ce que j'ai à vous dire et ce que je vous ai partagé depuis le début. Mais disons qu'il faudrait une grande table. Alors, nous devons nous adapter. Mais je souhaite de tout cœur que l'information que je vous communique puisse réellement vous pénétrer votre intelligence. Et que vous, à votre tour, puissiez vous asseoir autour de la table avec vos amis et de pouvoir discuter de ces choses. Et nous savons que cela est d'une grande richesse, c'est une grande bénédiction de pouvoir partager avec des gens qui cherchent Dieu et qui croient ce que nous croyons aussi. Et dans ce contexte-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre discussion que seulement toucher les questions de base. Et de pouvoir discuter ensemble librement toute la sagesse de Dieu. Et chez moi, lorsque je suis à la maison et que nous sommes tous ensemble en famille, et je me souviens même il y a 2 ans, je réalisais à quel point j'étais béni. J'avais autour de moi mon épouse, mes enfants, et tous mes enfants sont adultes maintenant. Et je les ai tous entraînés, et ils ont tous suivi mon enseignement. Et ils connaissent Dieu. Et nous étions là, assis autour de la table, et en train de manger, de partager la nourriture. Et à mesure que nous prenions une bouchée, l'un d'eux disait « Oh oui, à propos, as-tu entendu à propos de cette personne qui a été ressuscitée des morts? » Et nous pouvions échanger sur cette situation. Et alors, on continuait de manger et je demandais à un autre de « Passe-moi le pain. » Et quelqu'un d'autre disait comme ça spontanément « Ah oui, papa, nous avons prié aujourd'hui pour cette personne qui a été guérie complètement. » Et cela a duré pendant toute la durée du repas. Et tout à coup, j'ai pris conscience de la situation et j'ai eu comme un sentiment de grande joie en constatant combien j'étais béni de pouvoir échanger comme cela avec mes enfants. Et quelle bénédiction! Quelle grande bénédiction pour une famille de pouvoir aimer Dieu ensemble et de partager les richesses de Dieu. Et tous mes enfants ont été témoins des miracles de Dieu. Et pour eux, ça fait partie de la vie normale. Nous ne sommes pas surpris lorsque nous entendons des témoignages. Et un de mes fils est missionnaire en Thaïlande. Il est actuellement aux États-Unis, mais il demeure en Thaïlande comme missionnaire. Et il a été témoin de guérison, de cancer, du sida. Il a même été témoin de résurrection des morts. Il a été témoin de la guérison d'un jeune homme dont le cerveau était très, très endommagé et qui s'est levé du coma en pleine santé. Alors, il peut rendre témoignage de ce qu'il a appris fonctionne aussi en Thaïlande. Et un peu plus tard, durant les sessions, je vais laisser la parole à quelques personnes qui vont rendre témoignage du changement qui s'est produit dans leur vie suite à ces enseignements. Alors, je vous encourage d'écouter les témoignages, parce que nous sommes tous des croyants en Jésus-Christ. Alors, allons à Luc chapitre 4. Alors, nous allons encore ici parler de l'onction et nous allons lire à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, il est quand même à remarquer que Jésus, il est écrit que Jésus commença à leur dire, et il ajoute, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Alors, au verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Alors, il est à noter ici que Jésus appliquait l'idée d'un médecin à sa propre personne. Et Jésus ajoute, « Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et je vous le dis en vérité. » Alors ici, Jésus va commencer à attaquer ou à les reprendre pour leur esprit fermé nationaliste, en leur disant que s'ils ne faisaient pas attention et que Dieu allait les priver de ce message et le donner à un autre peuple. Et tous ces gens croyaient bien que les citations que Jésus donnait de l'Écriture étaient bonnes. Mais lorsqu'il a commencé à leur dire la vérité, à savoir que Dieu allait retirer cette bénédiction de sa parole et même le donner à d'autres nations. Alors là, ils se sont choqués et ils voulaient même lancer Jésus en bas d'une falaise. Mais la chose que nous devons retenir ici, dans le verset 18, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a oint. » Alors, pourquoi l'Esprit était-il sur Jésus? Parce qu'il a déjà été oint. Mais que disons-nous dans l'Église? Je suis oint parce que l'Esprit est sur moi. Vous voyez, c'est encore une fois l'opposé de la réalité. La Bible ne dit pas que nous sommes oints parce que l'Esprit vient sur nous, mais que l'Esprit est sur nous parce que nous sommes oints. Et ce qui correspond à l'Épître aux Galates, qui nous dit que parce que nous sommes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur. Vous comprenez cela? Alors vous voyez comment tout cela fonctionne. Notre idée, c'est que nous devons devenir oints, et cela se produit lorsque l'Esprit vient sur nous. Et cela n'est pas exact. Nous devons changer notre terminologie, parce que je vais vous prouver, avec la parole de Dieu, ce que je vous ai déjà démontré dans 1 Jean chapitre 2. Il est dit que l'onction habite en vous, abonde en vous. Et cela veut dire que l'onction est toujours en nous. Alors vous êtes toujours loin, n'est-ce pas? Alors je sais que c'est différent de ce que vous croyez habituellement, mais c'est ce qui fonctionne. On continue. Alors encore quelques versets dans Matthieu 28. Jésus nous dit d'aller partout dans le monde et de prêcher la parole parce que toute autorité lui a été donnée. Alors nous allons dans l'autorité du Seigneur. C'est ce que vous devez comprendre. L'autorité que vous avez n'est pas déléguée, elle est héritée parce que vous êtes né en Dieu. Vous êtes en lui, il a toute autorité. Et parce que vous êtes en lui, vous n'avez pas une parcelle d'autorité, vous opérez dans son autorité. Et parce que vous êtes en lui, et né de lui, ce n'est pas une autorité déléguée dans le sens qu'il vous la donne, mais vous êtes né dans cette autorité. C'est votre héritage. Vous héritez cette autorité qui vient avec votre position de fils et de fille de Dieu. Et voici le problème. C'est jusqu'à maintenant, vous vous êtes perçu simplement comme un esclave. Maintenant, il est vrai que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Galates chapitre 4 nous dit, au verset 7, que nous ne sommes plus des serviteurs ou des esclaves, mais fils et filles de Dieu. Il y a une différence dans les termes que l'apôtre Paul nous cite là dans cette épître. Serviteur et fils. Alors, il veut souligner justement cette différence. Alors, dans les temps passés, nous nous percevions uniquement comme des serviteurs, dans le sens d'un esclave. Les croyants de l'Ancienne Alliance étaient des serviteurs. Les croyants de la Nouvelle Alliance sont des fils et des filles. Et c'est ce à quoi l'apôtre fait allusion lorsqu'il nous dit que la Nouvelle Alliance nous amène de meilleures promesses. Et ce que nous devons comprendre actuellement, c'est qu'en tant que fils et filles, nous ne sommes pas des serviteurs dans ce sens, mais nous servons Dieu. Alors nous sommes des fils et des filles qui servons Dieu. Il y a une différence là. Alors je sais que je me répète, mais vous devez absolument comprendre cette vérité, afin que vous puissiez opérer le changement dans votre esprit. Dans Galates chapitre 4, encore une fois. Alors allons-y donc, vous pouvez tourner, regarder dans votre Bible. Au verset 2. Alors pardon, nous allons commencer au verset 1. Et nous irons aussi dans Galates 2, verset 20. Le verset qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Ô Galates dépourvus de sens! Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alors, Paul ici leur donne la différence entre la loi et la grâce. Et allons maintenant au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Pourquoi cela s'est produit? Verset 14 nous le dit. « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Et il continue, et il parle de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Mais allons jusqu'au verset 22. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. Et c'est ce que le monde devrait voir en nous. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, il parle de vous, là, que si vous êtes en Christ, si vous appartenez à Christ, si vous êtes en lui, alors vous êtes la semence d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Êtes-vous en Christ? Alors, vous êtes héritier de Dieu. Je vais lire le verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est clair, Paul nous l'affirme. C'est les promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous en êtes héritier maintenant. Maintenant, nous allons aller au chapitre dont je vous ai parlé précédent. Alors, Galates chapitre 4 et le verset 1. Alors, le verset 1 dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. » Alors, qui est cet héritier? C'est vous, n'est-ce pas? Êtes-vous certain? Je voulais juste être certain que vous compreniez bien. Alors, pour que vous ne pouviez pas vous soustraire à cette vérité. Alors, l'héritier ou l'héritière, vous pouvez dire « moi », dites « moi ». Alors, aussi longtemps que l'héritier ou l'héritière est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un serviteur ou d'un esclave. Alors, souvenez-vous, au début de mon enseignement, lorsque j'ai touché le sujet des bébés dans la foi, vous vous souvenez? Le bébé, le lait, la viande et l'immaturité et être charnel ou spirituel? Un bébé en Christ est charnel et le fils est spirituel? Et nous avons deux nouveaux éléments ici. Un enfant, un bébé, même dans l'état charnel, est aussi listé ici comme un servant, un serviteur, un esclave. Alors, voici l'opposé. Lorsque vous êtes spirituel, lorsque vous êtes un fils et une fille, et que vous grandissez, alors voici ce qu'il dit. Alors, l'héritier est un enfant, comme nous avons vu. Il ajoute... Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave ou un serviteur, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors, il fait référence à vous, à toi. Tu es maître de tout. Alors, vous voyez, vous n'auriez jamais cru cela si je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que je vous dis sans cesse que vous n'avez pas à agir et à fonctionner dans votre propre autorité. Vous êtes nés en son autorité, l'autorité du Seigneur. Tant et aussi longtemps que vous êtes un enfant, vous avez des pensées charnelles et vous êtes au même niveau qu'un serviteur, qu'un esclave. Et vous pensez comme un serviteur. Alors vous aimeriez que Dieu vous dise quoi faire, quand le faire et comment le faire. Mais lorsque vous commencez à maturer et que vous maturez en Christ, ah, vous savez quoi faire parce que vous avez la pensée de Christ en vous. Et vous avez en vous maintenant les pensées qui sont en Jésus-Christ. Alors, on nous a dit auparavant que les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées et que les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. Mais n'oubliez pas que nous trouvons seulement ce genre de pensée dans l'Ancien Testament. Et pour les gens de cette époque, c'était vrai. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui à nous qui sommes sous cette nouvelle alliance. Et nous entendons les gens parfois dire « Oh, les voies de Dieu sont mystérieuses. » Mais elles sont mystérieuses seulement pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. « Oh, ces voies sont au-dessus de mes voies. Ces pensées sont au-dessus de mes pensées. » Si cela est vrai, alors vous n'avez qu'à naître de nouveau. Si les voies de Dieu ne sont pas vos voies, vous n'êtes pas sauvés. Vous comprenez bien ce que j'affirme là. Si vous avez encore vos pensées charnelles, alors vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette puissance? Mais si vous êtes spirituel, vous vous dites, waouh, quelle responsabilité Dieu me donne là. Et selon votre manière de penser dans ce que je viens d'affirmer, vous pouvez vous-même évaluer votre niveau de spiritualité. Dieu ne vous a pas accordé sa puissance pour que vous puissiez l'étaler comme un trophée. Il vous a donné sa puissance avec une responsabilité, afin que vous puissiez devenir serviteur de votre prochain. Afin que vous puissiez démontrer la victoire de Jésus-Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a été manifesté afin qu'il puisse venir détruire les œuvres du diable. Et c'est pour cette raison que vous êtes nés en lui et que vous-même deveniez une démonstration de la victoire de Jésus-Christ et que vous-même, à votre tour, puissiez détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous avons lu déjà, évidemment, au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un serviteur ou d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Et il continue au verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, nous voyons que cet enfant doit grandir. Mais le but est de croître. Et lorsque vous grandissez, vous apprenez comment faire, comment agir. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, l'Église sera caractérisée par les gens qui ne cessent d'entendre, qui ne cessent d'écouter et qui n'apprennent rien. Alors, ce sont des gens qui écoutent sans cesse ce qu'on enseigne et l'enseignement biblique et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Alors, lorsque vous parvenez à la connaissance de la vérité, c'est là que vous commencez à croître. Et la connaissance de la vérité, en fait, n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. La connaissance de la vérité, comme nous l'avons démontré dans les premières leçons concernant le lait et la viande, nous avons démontré que la viande est pour ceux qui mettent en pratique la parole. Alors, la connaissance de la vérité signifie que nous ne sommes pas seulement des gens qui, dimanche après dimanche ou continuellement, vont être là à écouter, 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 mais ce sont des personnes qui mettent en pratique et qui agissent selon l'enseignement de la vérité. Et vous devenez quelqu'un qui accomplit la parole plutôt que quelqu'un qui l'écoute seulement. Et lorsque vous devenez mature, vous ne serez plus ballotté à tout vent de doctrine. Ça va être très difficile pour les gens de vous faire chambranler. Et vous allez comprendre que tout, malheureusement, presque tout ce qui est enseigné dans les églises n'a pas beaucoup de base dans la réalité de la vérité biblique. Alors souvent, ce sont seulement de belles paroles, mais que nous ne mettons jamais en pratique. Et c'est un peu comme manger un beigne. On le place, on croque à belles dents à ce beigne. Dans notre bouche, c'est bon, il y a une bonne saveur. Mais là, finalement, pour notre organisme, ça donne absolument rien parce que c'est du vent. Et cela ne nous nourrit pas. Et vous ne pourriez pas devenir quelqu'un de mature seulement en mangeant des beignes. Oui, vous serez nourri et vous serez rempli de sucre. Mais si vous comparez à une personne qui est bien alimentée, qui a une alimentation nutritive, alors cette personne sera beaucoup plus en santé que l'autre. Parce qu'une fois que nous avons mangé beaucoup de sucre, nous avons une poussée d'adrénaline. Mais lorsque cette poussée d'adrénaline diminue, nous devenons faibles et incapables d'agir. Tandis que la personne qui s'est nourrie avec des mets bien protéinés va continuer la course et vous dépasser 1000 fois. Alors n'oublions pas que nous sommes dans une course selon les paroles de l'apôtre Paul. Alors je vous encourage de mettre de côté les beignes et de vous nourrir de nourriture qui va permettre que vous soyez en bonne santé et bien nourri. Alors comme nous l'avons déjà vu, qu'est-ce que c'est que la viande? La viande de Dieu, les mets spirituels de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de notre Père Céleste. Et c'est incroyable à quel point cela est simple. Alors, sur ces paroles, prenons une pause.